Je vais commencer surtout parce que dans quelques minutes, il va y avoir le déjeuner et ça sera totalement inaudible. Donc, alors moi, je vais être beaucoup plus pragmatique, hein, puisque l'objectif, c'était aussi de voir comment on peut construire des compétences en matière d'interculturalité chez les professionnels de terrain. Et bon, cette réflexion, elle procède de plusieurs expériences. D'abord, effectivement, mon décentrage au Botswana, hein, donc très jeune médecin projeté en pleine brousse anglophone avec une administration extrêmement exotique, et il roulait à gauche, et il parlait anglais, et surtout une très grande démocratie et pas de corruption. Donc, ce qui m'a aussi beaucoup fait réfléchir sur les questions d'interculturalité et avec des systèmes de répartition territoriale entre les différentes ethnies, différents groupes, différents totems qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on lisait dans les livres d'anthropologie, du moins de l'époque. Ensuite, l'expérience au Centre national de l'enfance où j'ai animé sous la conduite de Michel le cours international de la santé de la mère et de l'enfant, donc un public international qu'on a emmené visiter des villes de province pour faire un diagnostic communautaire sur des problématiques de santé. Donc c'était gérer à la fois l'interculturalité des étudiants et le décentrage dans le milieu provincial par rapport à Paris. Donc c'était quand même, moi j'ai beaucoup appris, et en particulier en structurant le cours autour, justement, je les ai emmenés au Botswana. Et j'ai rencontré au Botswana, la fin du cours, c'était une semaine de simulation, de mise en place de programmes de santé de la mère et de l'enfant au Botswana, sur la base de documents, etc. Et j'ai rencontré l'année dernière au Gabon un de mes anciens élèves qui m'a dit: ah bah tiens, toi, c'était les éléphants. Voilà, donc, comme quoi, ça, les éléphants. Parce qu'au Botswana, il y avait les éléphants. Et puis, beaucoup plus récemment, c'est les enseignements que je mène à l'Institut de Puriculture, dont Monique Boutelot, qui est trésorière de Regard, était l'animatrice, et qui a pour objectif, puisqu'on continue, de doter, d'outiller les puricultrices pour pouvoir aborder la question de l'interculturalité de la façon la plus sereine possible. Et dans ce cours, on fait, après un premier élément théorique, où je développe ce que je vous ai déjà raconté, le décryptage des situations interculturelles en caricaturant culture, identité, communauté et appartenance, en essayant de voir ce qui, dans une situation qui peut sembler faire blocage, relève de chacun de ces éléments et pouvoir le mettre à plat. Je leur demande de ramener des situations où la question de la culture ou de la religion leur semble faire blocage à leur mission qui leur est confiée par l'institution, c'est l'hôpital, c'est la PMI, c'est la crèche. Et donc maintenant, avec 7 ans de recul, j'ai 675 situations qui sont relevées, ce qui permet d'avoir un état, non pas de ce qui fait problème dans l'institution, mais de ce qui a été jugé susceptible d'intérêt par les élèves puricultrices. Ce qui est un biais très particulier, hein. C'est-à-dire que je ne prétends pas du tout dire voilà ce qui se passe dans les institutions statistiquement, non. Voilà ce qui a retenu l'attention d'une élève puéricultrice lorsqu'on lui pose la question: est-ce que la culture ou la religion pose problème dans l'exercice de ses fonctions?
675.
Donc ça commence à faire... Alors, ces questions de formation, elles traversent bien évidemment Regard, puisque c'est au-delà de l'intermédiation culturelle qui a subi un petit contretemps cette dernière année, l'essentiel de nos activités avec les samedis. D'ailleurs, c'est les formations des travailleurs de première ligne, donc les puricultrices, mais aussi les infirmières du rectorat de Versailles, les intermédiateurs culturels, donc par Étienne, et c'était avant-hier, un programme avec la protection judiciaire de la jeunesse qui semble se dessiner pour la rentrée avec l'école de Roubaix. Donc je t'en parlerai tout à l'heure. Alors, quels sont les constats? D'abord, avant de parler de construire des compétences, quels sont les constats? La question de l'interculturel n'est pas du tout motivante pour les professionnels de première ligne. Pas du tout. Au contraire, ils ont beaucoup plus tendance à mettre le couvercle dessus, à dire que ça n'existe pas. Tout un tas de raisons. La première, c'est que c'est une actualité brûlante. Bon, les attentats du mois de janvier l'ont encore remis à l'ordre du jour. Quotidiennement, on a une actualité qui fait penser que les questions de culture, les questions de religion sont trop sensibles, trop délicates pour être directement abordées, et par prudence, les travailleurs préfèrent justement ne pas en parler. Deuxième raison, quand on leur pose la question, c'est qu'ils disent « moi je ne connais pas les choses, je ne connais pas ces questions de culture, c'est très intéressant, effectivement vous me parlez de sorcellerie, vous me parlez, etc. Mais moi je ne connais pas et je me sens un grand ignorant. Et étant ignorant, ben, je préfère ne pas en parler, je préfère m'abstenir que d'intervenir sur un terrain que je ne connais pas. » Ou quand je le connais, je sens que c'est quand même assez fragile, parce qu'il y a un discours politique qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche, où finalement les migrants, c'est qui ? Qu'est-ce que c'est que la culture ? Est-ce que c'est des gens bien ? Est-ce que c'est des gens qui viennent nous envahir ? Bref, tous les concepts que je glane de ci, de là, dans l'Internet, l'actualité, me semblent trop fragiles pour que je me sente légitime, encore une fois, pour l'aborder. Et alors, troisième raison aussi qu'ils invoquent, il y a beaucoup de risques à prendre. Des risques en termes de « je me fais traiter de raciste » ou au contraire « je me fais traiter de communautariste ». C'est-à-dire que je sape l'institution étatique française et du coup, ben, les gens sont très très faciles à mobiliser en disant « non, tu ne peux pas aborder cette question-là ». Enfin, et ça c'est quand on commence à approfondir un petit peu les choses, c'est qu'on se rend compte qu'il y a énormément de stéréotypes qui sont véhiculés à l'intérieur de la société française. Et lorsque justement... toi, tu parlais tout à l'heure de l'expression la plus naturelle des cultures. Moi, j'ai un petit tiqué, parce que c'est en fait l'expression la plus naturellement audible par nos oreilles et nos yeux d'occidentaux de la culture. C'est pas la plus naturellement exprimée. Hein. Donc, quand on parle de tambour africain, on rentre en plein dans le stéréotype. Et on est dans le stéréotype et on renforce le stéréotype. Alors, pour donner un exemple, dans les situations des puéricultrices, dès lors que la nationalité chinoise apparaissait, dans 45% des cas, c'était lié à la quarantaine chinoise qui fait que les femmes, les mamans chinoises, ne touchent pas leur enfant dans les 40 premiers jours. Ce qui heurte frontalement la théorie de l'attachement précoce dont les puéricultrices sont biberonnées au quotidien. Donc ça, le stéréotype, les Chinois, les Chinoises, les mamans chinoises ne touchent pas leur enfant. Quand la religion juive est abordée, c'est la question du Shabbat. 53% des cas. Le Shabbat, pendant lequel eh bien, on ne doit pas toucher l'électricité, on ne doit pas décrocher le téléphone, avec des situations qui sont quelquefois d'un comique digne des frères Cohen. Hein, où, récemment, cette dernière session, c'était une femme qui, le jour du Shabbat, pour venir visiter son enfant en réanimation, ne voulait pas appuyer sur l'interphone et donc rentrait par la sortie de secours, déclenchant toute l'alarme avec les pompiers, qui sont arrivés, parce que voilà, c'était des choses. Ou encore, une autre fois, alors ça c'est vraiment abominable, c'est atroce, mais c'est d'un comique finalement, encore une fois ça peut se voir dans un film des frères Cohen, où ils ne voulaient pas téléphoner pour, je ne sais plus ce qui se passait, enfin ils voulaient... Le jour du Shabbat, il y a un décès, et ils sont arrivés finalement, la conclusion, c'est que le rabbin a finalement pris son téléphone, et auprès du cadavre, on met le téléphone portable sur l'oreille pour qu'il puisse avoir les psaumes, parce que le rabbin ne pouvait pas prendre la voiture parce que c'était Shabbat. Sauf que Shabbat, il prenait quand même le téléphone portable. Bah, tu vois, il y a des absurdités de cet ordre-là qui finissent par être extrêmement... Évidemment, quand on parle d'Afrique, pour les puéricultrices, c'est les massages. Les massages qui sont extrêmement violents, extrêmement rudes, et que les puéricultrices voient d'un mauvais œil. Bon, finalement, on se rend compte que sur ces 675 situations, eh bien, il y a 14% qui renvoient sur les stéréotypes. C'est-à-dire que voilà, les gens du voyage ont faut beaucoup de monde et beaucoup de bruit, etc., etc., etc. Deuxième registre de constat aussi, c'est que ces stéréotypes, en fait, ils sont alimentés par notre imaginaire colonial qui est encore extrêmement présent, extrêmement vivant, et qui est auto-entretenu dans le collectif français. Chaque fois qu'on parle, ben, par exemple, voilà, du tambour africain, eh bien, ça renvoie et ça revitalise tout notre imaginaire colonial. Chaque fois qu'on relit Marguerite Duras et l'amant, ça revitalise notre imaginaire indochinois. Si nous ne posons pas la question, et on va y venir justement, qui va être le processus, si nous ne posons pas la question, qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc nous avons autour de nous tout un tas de signaux, implicites ou explicites, qui tendent à renforcer, à réalimenter, à revitaliser cet imaginaire colonial. Le musée du Quai Branly en est un exemple flagrant. Et ça, finalement, c'est ce que j'appelle l'exotisme tentateur. C'est-à-dire, c'est vachement sympa. C'est vrai que c'est super. C'est vrai que bah, quand on fait Koh-Lanta, bon, bah, voilà, il y a des beaux cocotiers, il y a des belles filles, il y a, voilà. Et cet exotisme-là, il renvoie positivement ou négativement, encore une fois, à cet imaginaire colonial. La misère, c'est plus simple au soleil, hein, chanter Charles Aznavour, ça reste encore aussi présent, ça reste encore aussi présent. Alors, il y a un deuxième phénomène aussi dans cet imaginaire colonial, c'est que c'est cette reconstruction de mythes dont tu parlais tout à l'heure, qui est le New Age, hein, avec la fascination qu'exerce tout, la notion d'esprit, la notion de sorcellerie, la notion d'envoûtement, hein, et qu'on voit revitaliser dans les films, par exemple, ce film... Oh là là, donc j'ai oublié. Non, moi je pense le film est tout bleu, là, le truc a eu un énorme succès il y a une dizaine d'années, avec où c'était la terre nourricière qui rentrait en communication. Et contre le capitalisme qui venait piller la planète.
Alors vous, c'est un film américain, ça.
C'est un film américain, un grand succès. Je suis sûr que vous le connaissez.
Moi, je l'ai vu.
Vous le connaissez.
C'est pas si longtemps.
Ce film tout bleu.
C'est
complètement la science-fiction. Avatar, voilà. Avatar, merci. Avatar, exactement.
Parce qu'ils
sont tout bleus. Ils sont tout bleus. Et on voit très bien comment dans ce film-là sont remis au bout du jour des mythes traditionnels de holisme, de la nature, communion avec la nature, etc. Les esprits de la nature. Et donc, ce dépassement du rationnel occidental engendre un tourisme spirituel. C'est un tourisme en chambre et qui est un tourisme spirituel. On visite des espaces spirituels différents et qui finissent par aussi revitaliser les contes de fées. C'est-à-dire qu'on va visiter ces histoires de sorcellerie, d'envoûtement, ces histoires de mobilisation des ancêtres avec nos esprits de contes de fées, quand on nous racontait que ben voilà, Cendrillon devenait tout d'un coup, à minuit, elle perdait sa pantoufle de verre et que la bonne sorcière était... Tout ça, ça fait sens et ça s'engraine dans des nouveaux mythes. Troisième mécanisme, alors c'est ce que Étienne parlait d'englobement du contraire, et que moi j'essaie de travailler au niveau de l'institution. Une institution, elle est faite pour soigner quand c'est l'hôpital, elle est faite pour juger quand c'est la justice, elle est faite pour éduquer quand c'est l'éducation, elle est faite pour accompagner quand c'est du social, c'est-à-dire elle est faite pour mesurer un délit, mesurer et identifier une maladie, mesurer et identifier une lacune éducative, mesurer et identifier un problème social, afin immédiatement d'en tirer une conclusion thérapeutique, éducative, judiciaire, un châtiment, autre chose. Elle est faite pour ça. L'institution, voilà, tout son mécanisme qui est j'identifie et je traite. Si je ne peux pas identifier, je ne peux pas traiter, ça ne me regarde pas, c'est en dehors de mon champ. Sauf que tout désordre va rentrer dans l'institution, dans ces aspects-là, laquelle institution va prendre la norme. Et la diversité est un désordre. L'étrangeté est un désordre. Donc l'institution va ipso facto transformer l'étrangeté, la diversité, comme quelque chose à laquelle elle doit adresser une remise en ordre. N'oublions jamais que Jules Ferry n'était pas un Janus. Jules Ferry, il avait un seul geste, l'éducation nationale et la colonisation. C'était le même geste qui était de retirer, d'extirper les enfants de la famille considérée comme nocive et d'aller apporter la bonne parole française dans les colonies aux indigènes, dont la culture était considérée comme nocive. C'est exactement le même geste. Et quand Hollande a dit « je mets le katana sous le registre de Jules Ferry, mais seulement l'aspect éducatif, pas l'aspect colonial », c'était une erreur fondamentale, parce que c'est le même geste. L'éducation nationale, c'était la colonisation des provinces. C'était la colonisation des provinces. Le refus. Et donc, la langue bretonne, la langue alsacienne, donc Véronique devait venir, mais...
La langue picarde,
etc., était considérée comme un désordre auquel l'éducation nationale devait apporter une remise en ordre.
Il faut pas oublier qu'on sortait de 30 ans de guerre et 30 000 morts et qu'il fallait effacer les différences religieuses pour vivre en paix.
Non mais je parle de l'ADN, je ne parle pas de la raison. Je ne cherche pas à la justifier. Et il se trouve qu'on est confronté encore à cet ADN-là. Et donc pour toutes ces raisons, eh bien, on ne va pas parler de la diversité. Le professionnel qui est pris dans son institution ne va pas oser en parler parce qu'il se sent aussi coincé par ses missions, coincé par ses injonctions de l'encadrement qui lui disent « il faut rentrer dans l'histoire de ton institution ». L'hôpital, il est là pour soigner quelle que soit la nationalité. Eh oui, oui, on ne peut pas contredire ça. Quelle que soit la nationalité, il faut soigner. Sauf que le soin n'a peut-être pas le même sens. Sauf que la justice n'a peut-être pas le même sens. Sauf que l'éducatif n'a peut-être pas le même sens. Et ça, eh bien, le professionnel ne se sent pas outillé, voire légitime pour le faire. Alors, un point juste au passage, il faut se rendre compte que la langue ne représente en réalité que 10% des situations où la culture semblait faire obstacle pour les puéricultrices. Donc là où on se dit c'est vraiment le problème linguistique qui est fondamental, eh bien non. La langue, ça n'est que 10%.
C'est incroyable.
Tout le reste, c'est des questions qui sont de confrontation entre systèmes culturels.
Ça y est.
Je pense que la diversité n'a pas de problème.
Ah oui, il y a eu un sacré dysfonctionnement.
Alors, pour vous donner un exemple sur la diversité, alors, dans ces expériences aussi de puéricultrices, la culture est souvent un prétexte. C'est-à-dire que la culture est un écran posté soit par les équipes, soit par les patients, pour qu'on ne traite pas le fond du problème. 13% des cas. J'ai deux cas, deux exemples. C'est très récemment, là, c'était une mère africaine hospitalisée pour un de ses enfants, donc elle est avec ses enfants, qui fait manger ses autres enfants par terre des chips, à même le sol, et qui est poitrine nue.
La mère,
oui. Ah, okay. Alors bon, ça choque la puéricultrice qui se dit, bon voilà, écoutez madame, il faut peut-être d'abord vous habiller, et puis on ne fait pas manger des chips par terre. Et puis, deuxième jour, troisième jour, ça continue. Et finalement, l'équipe dit, bah, c'est culturel. C'est comme ça que ça se fait en Afrique. C'est culturel, c'est comme ça que ça se fait en Afrique.
Sauf que,
un, en Afrique, les femmes ne se mettent pas les seins à l'air. Ça, c'est un imaginaire colonial. Hein. Elles n'ont plus les seins à l'air, ce n'est pas vrai.
Et deux,
elles l'ont eu dans les années 20, dans les années 10. Ben, aujourd'hui, une femme africaine, elle est aujourd'hui, en 2015.
Elle est habillée comme
tout le monde, absolument, où que ce soit. Et deuxièmement, aucune, je n'ai pas vu, même les bushmen, les bassarois, les nomades karamajong, n'ai jamais vu des mamans faire manger leurs enfants par terre. Jamais. Et encore pire, un paquet de chips. Les chips, le sol. Les chips. Donc là, il y a un problème si. Il y a à l'évidence un problème si et qui a été complètement occulté parce qu'il a été culturalisé. On a dit que voilà, ça se passe comme ça en Afrique et donc on a privé cette maman de soins psychiatriques qui auraient pu l'aider, je pense. Simplement parce qu'on s'est laissé hypnotiser par l'écran culturel. Ou une autre situation, c'est un papa extrêmement présent auprès de son adolescente de 16 ans diabétique qui veut tout contrôler. Alors à 16 ans, on commence à faire la transition entre la prise en charge externe du diabète à l'autonomisation du patient diabétique. C'est-à-dire, à 16 ans, c'est vraiment le moment où on lui dit il faut que tu prennes ton insuline, que tu saches faire ta glycémie, etc. Là, le père prenait tout en charge en disant c'est dans ma religion que ça se passe comme ça. Et bah, oui, d'accord. Mais qu'est-ce que tu vas dire à ça, la pauvre petite élève puéricultrice ? C'est ma religion qui me dit c'est le père qui doit faire le calcul d'insuline de sa fille. Qu'est-ce que la
puéricultrice ?
Juive, en l'occurrence. Et donc, qu'est-ce que la puéricultrice a comme élément pour dire c'est pas vrai ? comment est-ce qu'elle peut dire, attendez monsieur, là votre fille elle a 16 ans, ça va devenir une adulte, elle sera majeure dans 2 ans, c'est donc à elle de commencer à gérer son traitement. Complètement. Mais ayant mis cette barrière religieuse, donc le père est complètement protégé. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que dans 13% des cas, on a quand même cette instrumentalisation de la culture dont tu parlais.
Oui, parce que c'est ça, ça vient aussi de la part des gens aussi. C'est
pas complètement.
Non, mais c'est pour ça que je me dis, chez nous, ça se fait comme ça.
Exactement, exactement.
Et ça complique.
Exactement. Et ça, on voit ça.
Ils se défendent, hein. Voilà. C'est une défense. Hein.
Dans beaucoup de situations où la culture est un prétexte, c'est l'islam et la non-mixité dans la chambre d'hôpital. Ayant poussé justement une fois un adolescent malade à aller dormir dans le carré des infirmières. Parce que le mari ne voulait pas que sa femme dorme dans une chambre à deux lits où il y avait un adolescent malade. Voilà, donc ça, c'est quand même, ça pose des vrais problèmes. Alors,
j'ai connu ça pour un petit exemple, c'est en parlant de l'écriture, c'était à l'intercommunale, c'était sur l'histoire du lait. Le lait en poudre qui n'était pas, bon, en l'occurrence c'était un décachérisé, mais ça pouvait être ailleurs. Et donc ça avait posé des problèmes parce que l'hôpital avait son lait standard et c'était pas le lait, etc.
Oui. Alors, face à ce constat, donc, quels sont les objectifs pédagogiques qu'on peut se fixer? C'est-à-dire quand on est, par rapport à des professionnels justement, qu'on essaye d'outiller, bon, je pense que le premier élément qu'on va essayer de poursuivre, c'est de prendre conscience de sa professionnalité. Alors, professionnalité, c'est un néologisme qui est construit par l'équipe de Jean Furtos à Lyon, qui enfin, professionnalisme et personnalité. C'est-à-dire comment chacun habite sa mission. C'est-à-dire, il faut se rendre compte que nous sommes des êtres humains avant d'être infirmiers, puis adultiers, ou éducateurs, ou juges. Et que nous habitons donc cette profession. Et comment est-ce que nous l'habitons? Un exemple, c'est une situation caricaturale qui illustre bien ça, c'était un enfant drépanocytaire, un adolescent drépanocytaire d'Afrique de l'Ouest, en pleine crise hyperalgique, donc la drépanocytose, c'est une maladie du sang qui donne des crises extrêmement douloureuses, de déglobulisation, oui, mais enfin, c'est surtout parce que, oui, extrêmement douloureuse, et dont le père était très présent. Très très présent, accompagnant l'enfant, etc. Arrive l'élève puéricultrice qui se présente, et le père voit l'adolescent en train de hurler de douleur, de pleurer, lui donne 2 baffes. L'élève puéricultrice ne fait ni une ni deux, elle dit ah non monsieur, faut pas faire ça, les châtiments corporels sont interdits. Résultat des courses, le père disparaît de la circulation. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a oublié, la puéricultrice, qu'avant d'être puéricultrice, elle était femme. Et que l'éducation que voulait projeter le père sur son enfant, c'était « on ne pleure pas devant une femme ». Et au lieu de prendre ça en compte, elle a projeté immédiatement le châtiment corporel, c'est une mauvaise chose. Donc elle a disqualifié le père dans ce rôle d'éducateur, lequel père était totalement humilié, et étant ainsi humilié, s'est disqualifié lui-même et a disparu de la circulation. Donc l'attitude à comprendre, c'est que j'arrive en tant que femme...
De l'hôpital ou de la famille ?
De l'hôpital. Alors après, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la famille, de l'hôpital. Bon, ce qui est déjà quand même...
Non, c'est pas ça.
Donc l'attitude sur laquelle on essaie de travailler, c'est premièrement essayer de valoriser le fait que le père soit présent et qu'il soit investi dans l'éducation de son enfant, dans l'accompagnement. Certes, c'est pas le meilleur moyen de donner une paire de baffes. Ok, mais vous êtes là, monsieur. Et ça, c'est très bien. Deuxièmement, votre enfant, il souffre le martyr. Et le fait qu'il pleure, c'est au contraire de montrer qu'il a beaucoup de courage. Parce qu'il supporte cette douleur. Troisièmement, avant d'être femme, sachez que je suis professionnel de santé et que j'en ai vu pleurer des gens, et des plus coriaces, et des héros, etc. Essayez donc de désamorcer cette situation progressivement, mais en prenant conscience qu'avant d'être puéricultrice, aux yeux de cet homme, elle était femme. Et donc la situation de sanglots de l'adolescent était une situation vécue comme une humiliation. Donc ça, c'est la première étape. Prendre conscience de sa professionnalité. Donc j'ai pris ça avec des histoires de genre, mais ça peut être aussi avec des histoires d'origine, de Picard, bref, qui nous sommes au sein de notre profession. Deuxième, deuxième niveau pédagogique, c'est ce qui renvoie à ce que tu disais tout à l'heure, l'ontologie, hein, la posture ontologique. C'est-à-dire, parler beaucoup plus de posture, d'ouverture par rapport à l'autre, que de connaissances culturelles. Hein. Il est hors de question, et ça j'insiste à chaque fois, hors de question de construire des expertises culturelles. Parce que là on ne fait que renforcer les stéréotypes. Hein, ça, le sourire de Dominique, moi je me bats contre les formations soigner un Africain, soigner un Asiatique, et qui fleurissent. Or, c'est une hérésie. On ne soigne pas un Africain, on soigne quelqu'un qui est aujourd'hui à Paris en 2015. Certes, avec des traits culturels qu'il a peut-être pris ou pas pris de chez lui, mais c'est lui qui fait le choix. C'est pas à moi de lui dire ce qu'il a pris et ce qu'il n'a pas pris. C'est à ce patient-là de le dire. Donc, les professionnels de première ligne doivent d'abord être ouverts à la diversité et ne pas sentir leur institution menacée par cette diversité. Savoir trier ce qui est réellement le désordre pour lequel ils sont mandatés, la maladie, le délit, de ce qui n'est que l'expression d'une étrangéité. L'exemple aussi, c'est les mamans kangourous. Vous savez que les puéricultrices dans les Andes d'Amérique latine ont fustigé pendant les années 50-60 le bébé peau à peau en disant que c'était mauvais pour la santé, que c'était source d'infection, etc. Résultat des courses, après le travail en Colombie, ils se sont rendus compte que bah, ça pouvait peut-être aider pour les prématurés. Donc il n'y a plus une seule maternité sans son unité kangourou. Donc l'étrangéité n'est pas forcément un désordre institutionnel. Donc voilà, donc ça c'est déjà cette posture sur laquelle, troisième niveau, accepter l'extrême évolutivité des cultures. C'est-à-dire qu'une culture n'est jamais figée. Une culture, elle est ici et maintenant reconstruite, bricolée, chaque matin. Et les personnes que nous avons en face de nous, tout aussi exotiques nous paraissent-elles, sont peut-être membres d'une diaspora avec une cousine à Melbourne, une autre à Québec et un troisième à Johannesburg. Donc finalement, elles sont au téléphone portable.
Les chercheuses à l'INSERM, malgré leur question.
Oui, ou chercheuses à l'INSERM, oui. Ben c'est le livre de Catherine Lewertowski, oui, d'accord, le conte de fées, justement, précisément. Et donc, voilà, il faut se méfier, absolument, il faut se méfier. Et c'est surtout que c'est très évolutif. C'est que d'une année sur l'autre, la même personne pourra ne plus avoir les mêmes références culturelles.
Ouais. Hein?
C'est-à-dire que nous sommes tous en construction permanente. Et les patients au même titre que les autres.
C'est
des mythes, oui, c'est ça, c'est créer des nouveaux mythes. Et c'est plus le même mythe tout à fait. Voilà.
Et c'est le problème que j'évoquais avec Toby Nathan tout à l'heure. Oui, non, mais
c'est ça,
il a fallu 15 ans pour en sortir, au moins. Oui, oui. Et ça reste encore terriblement présent.
Quatrième point, limiter les ambitions. Les professionnels sont toujours très demandeurs et chaque fois que je finis une formation, ils disent « Ah, ben, on aurait aimé savoir un peu plus sur les sorciers africains, on aurait aimé savoir un peu plus sur… » Non, non. Alors, restons corrects. D'abord, imaginez-vous, vous êtes bien français, est-ce que quand vous serez au Botswana, vous pouvez parler de la culture française de façon générique ? Est-ce que vous vous sentez légitime pour parler des Corses, des Basques, des Alsaciens, des Bretons et des Picards ? Non. Bon, certainement pas. Donc, comment est-ce que je peux vous donner tous les systèmes de référence ? Il y a 800 langues en Afrique. Hein, bon, c'est totalement. Donc, limitons les ambitions. Nous ne pouvons pas. Et puis, alors, pédagogiquement, le cinquième point, c'est produire le choc du refoulé colonial. Alors ça, ceux qui ont assisté à mes formations le savent, le choc du refoulé colonial.
Voilà.
Je projette de l'iconographie des années 50 tirée de l'excellente exposition La fabrique du sauvage, l'invention du sauvage. Hein, c'était l'exposition qui a eu lieu en 2012 sous l'instigation de Liliane Thuram. Il n'y a que Liliane Thuram qui était capable de le faire passer au musée du Quai Branly et qui montre les os humains. Hein, comment le jardin d'acclimatation était en fait au départ pour importer des indigènes que l'on faisait montrer aux Parisiens, voilà, dans leur milieu. Voilà. Le dernier zoo humain était en 82 en Belgique.
En 1982.
Voilà, en Belgique. Voilà, donc Et vous allez, j'étais à Amsterdam il n'y a pas longtemps, le musée tropical d'Amsterdam a encore des statues de cire du bon colon qui vient évangéliser les indigènes, encore aujourd'hui, en 2015. Donc voilà, c'est produire un choc. Alors je produis ce choc avec cette iconographie et je produis ce choc aussi en montrant quelques signes dans l'espace public, tout à fait anodins, mais qui relèvent véritablement de cette revitalisation. Et il y a en particulier un montage photographique que j'utilise beaucoup qui était sur les grilles du Luxembourg. C'est une exposition de la SNCF et les Français ont changé. La SNCF change avec les Français, mais ils aiment toujours le train avec... Sur la gauche, de face, un train noir et blanc, où on voit Douce France, il y a un type avec son oranger, tu sais, la casquette, et on les voit qui se prennent balle dans le train. Et sur la droite, l'image est en couleur, on voit trois femmes en bambou, qui, en boubou, qui ne sont même pas dans le train, trois grosses femmes qui s'en vont. Donc on ne voit pas leur visage. Le sous-titre, c'est « La France fout le camp ». C'est évidemment, quand on analyse sémiotiquement ce montage, c'est la France fout le camp. Et ben voilà. Et c'est totalement subliminal. C'est-à-dire, si on ne se pose pas en se disant qu'est-ce que le graphiste a voulu nous dire, eh bien, ça renforce. Sachant, et ça, j'utilise toujours, les stéréotypes sont tous et partout à chercher à puiser dans la réalité ce qui les renforce et à nier ce qui les contredit. C'est-à-dire que les stéréotypes cherchent toujours à se renforcer et jamais à se mettre en cause. S'il n'y a pas cette posture volontariste de dire qu'est-ce que je fais là-dessus, qu'est-ce que je laisse. On se souvient toujours de la couleur de peau de celui qui vous a agressé, jamais la couleur de peau du chauffeur de bus qui a eu la gentillesse de s'arrêter entre deux arrêts parce que vous avez eu encombré avec. Donc le stéréotype est toujours là à se renforcer. Donc c'est faire prendre conscience à ça, identifier les stéréotypes, hein, mais identifier les stéréotypes, c'est pas pour se flageller, de même le reflet colonial, c'est pas par culpabilité, c'est au contraire, c'est pour se déculpabiliser. Ça, c'est nos grands-parents qui l'ont fait. Moi, je fais ce travail aujourd'hui. Et du coup, si je suis déculpabilisé, eh bien, je me sens légitime pour en parler. Tout d'un coup, je réacquiers une légitimité pour aborder cette chose-là. Je n'ai plus de refoulé. Effectivement, je vois ça, ce stéréotype. Je vois ce qui s'est dit dans les années passées. Je l'ai dépassé. Je l'ai dépassé et maintenant on peut se mettre autour d'une table et pour en parler ensemble. Donc une fois légitime pour en parler, s'interdire l'assignation identitaire. Et ça, c'est un travail très important. L'assignation identitaire. C'est-à-dire... Encore un exemple, les femmes maliennes interdisent qu'on touche la fontanelle de leurs enfants pour dépister l'hypertension intracrânienne. Hein, la fontanelle, c'est le petit trou. Là. Et du coup, on va priver toutes les femmes maliennes, tous les enfants maliens, pardon, d'un dépistage très facile et anodin de l'hypertension intracrânienne. Simplement parce qu'on projette, on assigne cette femme, parce qu'elle a un passeport malien, à une identité. Bon. On procède beaucoup, comme ça aussi, les syndromes méditerranéens. Hein, ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier savent bien, le syndrome méditerranéen, c'est les gens d'Afrique du Nord qui sont paresseux et hystériques. D'ailleurs, très volubiles. Et bien, c'est encore un terme qui est utilisé dans les services hospitaliers. Ah bah oui. Donc, non mais attends, non, je suis là en train de parler des stéréotypes, hein, des stéréotypes et des assignations identitaires. Un objectif pédagogique aussi, c'est être pragmatique, c'est-à-dire ne pas se prendre la tête à essayer de comprendre qui, du sorcier, du vaudou, du machin, non, être pragmatique. De quoi, premièrement, nous sommes en partage? Qu'est-ce que nous avons comme communauté d'intérêt? Eh bien, c'est le bien-être du patient, le bien-être de l'équipe. C'est la justice, c'est le bien-être de l'enfant. Et donc, le fait qu'il rentre dans un dispositif positif est celui des juges. C'est ça le seul intérêt que nous avons en partage. Et cet intérêt est de nous permettre, premièrement, de mettre à plat les clivages qui nous opposent. Quelles sont les identités? Il y a l'identité du professionnel, l'identité de l'usager. Il y a l'identité du français, il y a l'identité de l'étranger. Et ça peut nous opposer, mais mettons-le sur la table. Parlons-en. qu'est-ce qui fait culture, qu'est-ce qui fait communication entre nous, quel langage commun on peut construire et sur quelle base, et enfin quelle appartenance, c'est-à-dire quel groupe on peut soutenir, l'équipe, l'alliance soignant-soigné, l'équipe éducateur et éduqué. Savoir faire la part du culturel et du reste, c'est-à-dire ne pas se laisser instrumentaliser ou fasciner ou hypnotiser par la question culturelle, qui peut faire écran, dont je parlais tout à l'heure. Savoir quand même décortiquer les choses pour ne pas se laisser hypnotiser, fasciner par ça, tout en comprenant ce que l'institution exige, ce que nous sommes payés à faire quand même, parce que nous sommes payés par des fonds collectifs, par des fonds publics, donc on a une mission à apporter et identifier donc les marges de négociation entre l'acceptation de l'étrangeté et la complétion, l'accomplissement de la mission pour laquelle nous sommes payés. Voilà. Et puis donc oublier l'exhaustivité, on ne sera jamais exhaustif, et oublier les contes de fées, parce qu'on ne sera jamais dans les contes où tout sera beau, tout sera gentil, comme ce fameux livre de Catherine Lewertowski, là, où c'est vraiment sept contes de fées, c'est les sept histoires, je ne sais plus comment ça s'appelle ce livre, le titre, c'est sept histoires, soigner l'étrange, en psychanalyse, voilà. Donc ça, c'est, concrètement, ça se met en œuvre chez les puéricultrices depuis 7 ans, auprès du rectorat de Versailles, les infirmières du rectorat de Versailles. J'ai été amené aussi à intervenir dans un programme de réussite éducative à Vigneux. Et puis, bon, voilà, la PJJ qui nous sollicite dans le cadre de la lutte contre la radicalisation et prise en charge donc de la diversité et de la diversité des équipes. Alors j'oublie un point qui est quand même important, c'est que seulement 2% des situations relevées par les agricultrices montraient la diversité des équipes elles-mêmes comme étant un problème. Alors est-ce que ça veut dire que ça se passe très bien dans la diversité? C'est pas évident. Est-ce que ça veut dire que c'est encore plus du non-dit parce que c'est dans l'équipe elle-même et que c'est pas travaillé? Voilà. Le point d'interrogation reste posé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va travailler à la PJJ, c'est-à-dire la diversité, comme une équipe d'origine diversifiée interagit avec un public d'origine diversifiée. Quels sont les enjeux, quels sont les problèmes, quelles sont les précautions à prendre et les débats collectifs à structurer.
Dans la police.
De la police, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Mais je pense que tous les travailleurs de première ligne ont ce problème. Ouais. Ouais. Mais qui n'est pas ouvert, qui n'est pas verbalisé.
C'est
quand même encore non-dit. Parce que dans le travail, c'est agissant. Et c'est agissant et pas non-dit.
Je voulais te demander par rapport à l'institution, tu as montré qu'il n'y a pas une pension du personnel par rapport au code institutionnel dans lequel il y a une pension. Et quand tu parles de partage, de cette pragmatique, le partage, si tu veux. Donc, comment ça peut se passer, par exemple, si tu as une femme qui est africaine et justement qui est assise là à travailler ses chips et qui est bien avec son enfant et son enfant, et l'aide-soignante se retrouve en position difficile parce qu'elle ne peut pas l'accepter. Alors, comment on arrive à décider ça vis-à-vis son institution et l'accepter en fait.
Ah ben c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Alors l'exemple là en l'occurrence de la chips, bon, est pas bon parce que c'est elle. Mais l'exemple, c'est les gens du voyage. Les gens du voyage qui sont très régulièrement convoqués parce que bah voilà, quand ils arrivent, ils sont à 15, 20 et que l'institution elle est faite pour un couple. Hein, pendant l'accouchement, qui vient assister à l'accouchement, mais certainement pas 15 ou 20 personnes. Alors, moi ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est un, quand une personne du voyage tombe malade, c'est tout le groupe qui est malade. Donc c'est tout le groupe dont il faut prendre soin. et pas simplement l'unité, ouais, et pas simplement l'unité pour laquelle l'institution est construite. Ce qui veut dire, et ça ils l'ont fait à l'hôpital de Pontoise, il faut trouver des solutions pour soigner le groupe en même temps que la personne. Et donc à Pontoise, ils ont comme ça organisé un espace, une salle, pour accueillir l'ensemble de la famille des gens du voyage, sinon tout le temps des gens du voyage. Donc il faut bien qu'ils s'adaptent. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est les gens qui doivent s'adapter à l'institution, est-ce que c'est l'institution qui doit s'adapter aux gens? Et bon, là en l'occurrence, c'est à l'évidence l'institution qui doit s'adapter aux gens. Donc, et c'est pas difficile, c'est ouvrir un espace dans lequel les gens du voyage peuvent être accueillis collectivement.
Dans ce que j'avais vu, pour les gens du voyage, c'est que secondairement, c'était une référence, hein, c'est-à-dire on a appelé le pasteur, c'est des protestants, le pasteur de cette communauté, et puis il y avait eu un échange inter... c'était un comité d'éthique, donc c'était en secondaire ou en tertiaire, hein, tu vois, et ça a beaucoup aidé, à la fois l'hôpital, parce que les gens, c'était le problème de se poser pour non pas que pour l'accouchement, mais pour la réa.
Ah oui, oui.
Pour la réanimation. Hein, donc ils venaient et ça devenait franchement insupportable. Et donc, réunion secondaire avec le pasteur, enfin une référence quelconque, et en l'occurrence c'était le pasteur.
Alors, ça c'est ce que je dis toujours aussi, quand j'outille les professionnels, c'est que aucune religion ne met en danger la vie de ses fidèles.
Oui, c'est ça.
Je parle de vraie religion. Aucune, aucune. Et chaque... ne met en danger la vie de ses fidèles, oui. Et chaque fois que j'ai été confronté à une situation, voilà, le ramadan, là je vais voir les imams à Vitry, c'est chaque fois tranché en faveur de la santé des fidèles. Et c'est de l'interprétation individuelle. Après, il y a des gens qui vont se mettre en danger parce que bon, ils sont diabétiques, ils veulent faire le ramadan, parce que bon. Et ça, il faut bien que le professionnel se rende compte et réalise que c'est de l'interprétation individuelle. C'est monsieur, c'est vous qui prenez cette décision, c'est pas la religion. Le Coran n'a jamais dit qu'un diabétique devait faire le ramadan, bien au contraire. Et allez voir votre imam, il va vous dire exactement le contraire. Et ça, bah, ça libère beaucoup la parole des professionnels. Ça les libère beaucoup parce qu'ils se sentent généralement submergés par la force. C'est ma religion qui me l'interdit. Ben non, monsieur, non, la religion ne vous interdit pas ça.
Voilà.
Voilà. Alors. Ouais. Oui. Ouais. Bon, ceci étant, le témoin de Jéhovah, c'est voilà, borderline.
Ouais,
on peut imaginer que dans les années 80, au moment de l'émergence du sida, les témoins de Jéhovah n'avaient pas complètement tort.
Je pense que t'as raison.
Bah, de refuser la transfusion.
Ah.
Soyons objectifs. Non, ils ne sont pas les seuls. Oui, tout à fait. Non, moi je fais référence plus au temple solaire ou à d'autres choses comme ça. Voilà.
Qu'est-ce que tu fais maintenant pour... En plus, j'ai pas une voix qui porte trop. Donc, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir formulé ça en termes d'objectifs pédagogiques et comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer les relations entre professionnels et usagers d'un service dans un cadre où il peut y avoir un problème d'interculturalité. Et je voulais savoir si ce que vous nous expliquez là, ça a été publié quelque part. Est-ce que c'est le contenu de vos formations finalement que vous livrez? Est-ce que...
Alors, ça a été publié, l'expérience des puéricultrices a été publiée. Donc j'ai mis le lien en ligne sur le site de Regard et je peux vous envoyer le PDF. Donc c'est le cahier de la puéricultrice et dans Société et Santé. En tant que tu le connais l'article ? D'accord. Ok. Donc faut l'envoyer. Mais là je suis en train de théoriser là-dessus. Plus encore. Donc bon, aujourd'hui ça commence, mais je pense ultérieurement le travailler. On verra quelle forme ça va prendre. On a déjà. Voilà. Parce que bon, j'ai fait une thèse en sciences de l'éducation, donc peut-être dans la prolongation, ça pourra. Voilà.
Pierre de Coupe, c'est ça?
Pierre de Coupe. Ah bah j'ai oublié, chez les médiateurs, j'ai fait une intervention sur ce thème-là, d'accord?
Oui, c'était, voilà. C'était vraiment intéressant, un peu court, un peu du thème. Et...
Dans l'expérience que nous on a fait en ce moment, dans l'expérience qu'on a faite dans le cadre de la formation donc à l'intermédiation culturelle dans le cadre judiciaire et de la protection judiciaire des mineurs, donc auprès des juges pour enfants, on s'est rendu compte, enfin certains entre nous, que si bien au départ notre objectif c'était de former des intermédiateurs culturels, donc c'est-à-dire créer une profession qui va justement se charger de cette question et qui va aider le juge dans son travail quand justement le fond culturel du dossier pose un problème dans la relation entre les deux parties mais, et dans les deux sens, c'est-à-dire un problème de compréhension mutuelle qui fait qu'on n'arrive pas à avancer sur le dossier. Donc au départ c'était ça, mais en fait on s'est rendu compte, enfin moi personnellement en tout cas, qu'au-delà du besoin qu'il pourrait y avoir de créer une profession spécifique, il y a un réel besoin, je pense, de former tous les professionnels, en fait, pour qu'ils aient cette sensibilité et justement cette ouverture. Et je retiens vraiment ce mot-là, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de devenir un expert dans toutes les cultures et de connaître toutes les cultures africaines, mais c'est vraiment d'être capable d'être ouvert à cette question-là. Et d'aborder les choses d'une autre manière qui rendent possible la relation avec les usagers du service. Et donc je trouvais ça intéressant par rapport à ça parce que nous on a rencontré des juges qui avaient déjà cette sensibilité. Et donc finalement je me disais mais en fait cette juge elle a pas besoin de moi quoi, parce qu'elle a compris toute seule le truc quoi. Bon, c'est pas aussi simple parce que parfois le juge il accompagne pas le justiciable tout le temps, c'est-à-dire qu'il est au moment de l'audience et puis il leur donne une mesure. Mais après, c'est vrai qu'il peut y avoir besoin d'un accompagnement qui rend nécessaire la figure de l'intermédiateur culturel. Mais quand même, il y a déjà une sensibilité. Je pense que c'est vraiment une des clés de travailler avec tous les professionnels et de leur permettre d'avoir cette sensibilité et de leur donner des outils comme vous avez fait pour se poser des questions et les bonnes questions face à ce problème qu'ils rencontrent dans leur travail au quotidien du fait du contexte interculturel.
Le problème de cette formation, vous avez remarqué que nous y étions présents.
Simplement, pour rebondir sur ce que venait de dire Bénédicte, moi je me sens limitée dans un travail qui resterait exclusivement judiciaire, parce que j'ai travaillé également à la PJJ, j'ai travaillé au ministère de l'Éducation nationale sur la prévention des violences scolaires. Hier soir, on discutait avec l'Association internationale de droit pénal d'interculturalité, avec Christiane Taubira, qui essaie de mettre en place un travail d'interculturalité dans la lutte contre la radicalisation avec les conseillers d'insertion. Moi, je ne vois pas comment on peut travailler en interculturalité judiciaire en se limitant à une audience, sachant que l'enfant repart après à l'école, où il sera complètement livré à une violence monoculturelle, où le pluriculturalisme n'est pas accepté. Je ne vois pas comment on peut le faire si les conseillers d'insertion ne sont pas formés, si les éducateurs à la PJJ sont aussi en difficulté et n'ont pas ces outils. Donc je me pose vraiment la question d'une intervention qui est si limitée. Et encore hier soir, je parlais avec une des juges de la Cour pénale qui me dit « Mais à quoi ça sert de faire de l'intermédiation culturelle ?» Et je comprends qu'on soit dans le normatif, mais j'ai pas pu lui répondre, j'étais assez sidérée. Je trouve dommage qu'en ayant aujourd'hui une ministre qui est extrêmement ouverte à ces questions-là, il n'y ait pas davantage de mobilisation des chercheurs et des intervenants pour développer cette formation. Voilà mon point de vue de débutant.
Il y a plusieurs éléments. D'abord, pourquoi est-ce que c'est pas politiquement correct ? Eh bien, pour toutes les raisons que j'ai décrites en amont. Hein, manque de motivation, il y a des coups à prendre, c'est politiquement extrêmement dangereux. Je vois mal Christiane Taubira parler d'interculturalité sur les médias publics. Elle se fera immédiatement retoquer. Et
pardon de t'interrompre, pourtant elle a créé un institut à la
je pense que
contrat de partenariat avec l'Institut du Monde Arabe. Son travail sur la mise en œuvre.
Mais je pense que non, mais je pense qu'elle le fait, mais sans le dire.
Dans la presse,
oui. Je pense que voilà. On ne peut pas l'afficher dans le discours public d'une manière telle que.
C'est une femme qu'elle pourra, c'est peut-être elle qui peut porter la chose.
Mais c'est pour ça que j'ai rencontré la responsable nationale de cette mission que vous précisez jeudi dernier, pour qu'on essaye de bâtir justement un projet national sur cette question-là. Mais on ne fera pas de communiqué de presse. D'ailleurs, il va falloir que je sache.
Mais on peut développer des formations.
On peut développer des formations. Exactement, c'est ça. C'est ça. Mais alors, voilà, le deuxième point. Voilà. Voilà. Le deuxième point, et là, vous avez tout à fait raison. À quoi ça sert de faire ici, dans la justice, si l'éducation nationale, si l'hôpital.
Oui.
Mais c'est comme Sisyphe. Hein. Il faut commencer par quelque part. Si on ne fait rien nulle part, rien ne va se passer. Et ça restera complètement figé. Si on a une porte entrouverte, mettons le pied dans la porte, on est conscient de la limite que ça représente, mais au moins, quelque part, eh bien, le jeune aura eu un autre façon de voir. On a eu le témoignage, c'était il y a 2-3 ans, d'une jeune fille qui est venue dire combien l'intermédiation culturelle lui avait, je dirais pas sauvé la vie, mais au moins sauvé la mise. Hein? T'étais venue, tu l'avais vue là? Voilà, il y a deux ans. Et bah, pour nous, c'était quelque chose d'extrêmement intéressant. Oui, absolument. Et elle a fait un mémoire. C'est comme dans tout parcours. Les éducateurs de rue le savent bien, c'est leur principe. C'est, il y a un moment, il faut qu'il y ait la bonne personne au bon moment. Ça peut être à minuit au bar, ça peut être à 2h de l'après-midi. Voilà. Si la personne n'est pas là, ça dérape. Mais si on met la personne au bon moment, même si c'est que ponctuel, il peut y avoir une bascule qui se passe. Voilà, c'est un peu dans cette logique. Maintenant, je partage, et nous partageons l'idée qu'il faudrait travailler sur l'école, travailler sur l'hôpital, travailler sur la justice, simultanément sur le social, étant peut-être le pire.
Et nous inclure tous et pas s'exclure. Nous inclure tous et ne pas s'exclure.
Ah, ne pas s'exclure, oui.
Comme nous l'avons vécu d'une manière...
assez violente.
Très violente.
Non, vous n'êtes pas... Non,
mais on peut pas remédier à ça. Mais je pense aussi, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs en séminaire, parce qu'il y a un vrai besoin,
Alors, il y a Dominique, Isabelle et puis...
Alors, je ne sais plus si c'est dans une réflexion que nous avions en commun à propos de Vitry, ou si c'est dans le CEP Enfance, enfin je ne sais plus. Une des propositions, c'était dans la formation, que les personnes sachent qu'elles sont traversées par plusieurs discours. C'est-à-dire que la complexité de la situation exige d'elles de ne pas avoir une réponse, une seule tout le temps, voilà, et d'accepter qu'elles ne sachent pas, enfin, et qu'elles soient multiréférentielles, elles-mêmes. Donc, tu vois, quand tu dis comment elles sont impliquées, qu'elles sont d'abord une professionnelle, etc., de ne pas vouloir répondre tout de suite, etc., c'est cette capacité à se savoir prise en plusieurs champs de discours. Et ça, je crois que c'est très, très important. Enfin bon, je crois que ça ressort des forums du CEPE. Alors je dis un mot du CEPE, c'est-à-dire construisons ensemble la politique de l'enfance, où nous défendons un Conseil national de l'enfance avec une instance interministérielle, où tous les champs de l'enfance soient pris en compte, et justement l'école, la justice, la culture, le pédagogique, le soin, etc., pour qu'il y ait un fonctionnement articulé de ces différents lieux. Et voilà. Et ça, c'est très important, parce que Taubira, on est allé la rencontrer pour lui en parler de ça. c'est qu'ils ont beaucoup de mal à bouger, même le ministère de la Justice, parce qu'ils ont leur précaré. Ils ont leur précaré, l'éducation nationale a son précaré, etc. Et on essaye de faire ça dans les regards croisés à Vitry, par exemple. On commence très modestement sur le terrain à faire que ces différents champs se rencontrent et problématisent ensemble et la signalisation, le signalement, je veux dire, de l'enfant. Bon, les questions de conformisme, les questions d'éducation, du lien d'un lieu à l'autre, pour que l'enfant ne soit pas abandonné d'une première prise en charge et que la seconde soit contradictoire, par exemple. Enfin, voilà. Donc, c'est ça rejoint ce que vous dites. C'est-à-dire que oui, nous travaillons avec la PJJ dans ce lieu-là. Il y a la PJJ. Et bien sûr, nous parlons du passage du fil rouge, des différentes problématiques d'un champ à l'autre. Voilà. Enfin, c'est à l'œuvre actuellement, dans différents champs.
Il ne faut pas oublier qu'on a quand même une alliée dans la place, hein, qui est quand même Catherine Sultan, directrice nationale de la PJJ et qui est fondatrice de Regard.
Non, on
ne rate pas.
Oui, non, là, par rapport à tout ce qui était dit, et justement, comment est-ce qu'on met ça en œuvre auprès de professionnels de première ligne? Moi, dans mon travail, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Et je m'y suis collée, moi, avec des professionnels de la protection de l'enfance. Et donc, en plus, dans du transdisciplinaire. Parce que tout à l'heure, quand je t'entendais par rapport à des puéricultrices, c'est vrai qu'en écoutant, je me disais peut-être qu'elles sont issues de cultures un peu communes. Parce qu'aujourd'hui, nous, dans les groupes, les gens sont eux-mêmes issus de parcours, mais extrêmement diversifiés. En Seine-Saint-Denis, à Paris, c'est je veux dire, là, ici, nous, on se ressemble un peu tous. On est de culture, mais extrêmement diversifiée. Donc, on n'est pas, donc, par exemple, le colonialisme, on n'a pas du tout le même rapport selon la place qu'on occupe. Enfin, voilà. Et donc, de faire tout ce chemin de d'abord se situer dans les formations, moi, je l'ai fait avec un groupe. Mais il a fallu que je réécrive ma copie 3 fois avant qu'elle soit validée parce que c'était impossible de l'écrire que de se situer d'abord, c'est-à-dire normalement de dire qu'on est professionnel, point barre, ça suffit. Je suis un tel et j'ai tel métier, ça suffit, peu importe d'où l'on vienne, comme si l'identité professionnelle couvrait tout le reste. Et donc, enfin bon, on l'a quand même fait dans la formation bon, du coup, j'ai perdu mon fil là sur cette importance de qui on est comme accompagnant, parce que c'est que. Et alors oui, après, et ensuite dans la diversité des équipes, parfois après ce qui peut se passer, c'est qu'il y a celui qui vient d'Afrique, donc lui il va comprendre tous les Africains, et donc on tombe dans les équipes, dans des stéréotypes. Et par contre, la chose qui est la plus complexe, qui a été la plus compliquée à évoquer, et je pense qu'avec tout ce qui se passe autour de la laïcité, c'est la religion, c'est nos religions, nos rapports à la religion, à la croyance, aux croyances. Et combien ça, c'est un tabou, mais fondamental, de notre éducation scolaire, dans les professions, en tant que fonctionnaire. Et alors là, ça c'est très compliqué à aborder, et ô combien c'est agissant pourtant. Et ô combien la lutte contre le djihadisme nous y confronte. Qui on est pour parler, enfin voilà. Et ça, on a un vaste chantier là. Comment l'aborder ?
François, tu as vu le titre de notre prochain, et Olivier, notre prochain séminaire à Créteil ?
Eh oui.
Militance, religion et adolescence.
Ça va chauffer.
Je voudrais avoir un peu votre analyse. Votre analyse un petit peu sur ce que vous avez dit là. J'ai l'impression que moi c'est un peu l'analyse que je fais, personnellement je peux me tromper. Hein. J'ai l'impression que les choses sont un peu bloquées en France au niveau du débat public depuis longtemps, depuis une trentaine d'années, sur tout ce qui est ces questions-là, interculturalisme. Puisque on parle par exemple du dualisme actuellement, on dit que les jeunes ont plus de repères, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais... Moi, personnellement, j'ai fait les premières marches des beurs en 83, 84, et je me rappelle qu'il y avait la question de la différence culturelle était posée à ce moment-là. c'était une des revendications qui était portée en partie par ce mouvement, c'était qu'on prenne en compte cette situation-là dans l'espace public. Après, il y a eu l'histoire du voile en 89. Donc, il y a été un grand débat au niveau de la France. Et je me rappelle aussi, moi, j'avais à ce moment-là, je me suis pas mal intéressé à la question. Et j'ai lu notamment tous les travaux d'un laboratoire de sociologie qui s'appelait le CADIS, avec Alain Touraine, Michel Lurka. On a sorti un ouvrage collectif qui s'appelait La société fragmentée. Ils se sont posés cette question-là. Comment concilier, on va dire, le mythe, entre guillemets, le mythe fondateur, la République une indivisible, avec une prise en compte de la différence culturelle en partie. Ça, tout de suite, le débat était clos. On l'a complètement fermé. Et là, par exemple, dernièrement, quand on voit la polémique autour du collège, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est par rapport au programme d'histoire. C'était quand même intéressant d'entendre des historiens et certains de renom de dire qu'il faut que l'histoire, il faut que les programmes d'histoire racontent un roman national. Donc voilà, c'est pourquoi, par exemple, dans des pays un peu anglo-saxons comme le Québec et puis les États-Unis, ces questions-là de l'interculturalisme sont prises en compte, et qu'en France, c'est complètement bloqué. Alors en effet, il faut être pragmatique, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que le ministre Obira ne peut pas annoncer officiellement qu'elle est présente en interculturalisme. C'est quand même une question, moi, qui m'interroge beaucoup. Pourquoi c'est complètement fermé
Je reviens à cette histoire de refoulé colonial. Je pense que la France n'a pas fait sa psychanalyse. La France, elle a mis le couvercle en 63. Donc bon, voilà, plus de guerre d'Algérie, l'accord d'Évian terminé. On n'en parle plus. De même, d'ailleurs, comme à la Libération, hein, toute l'idéologie fascisante qui traversait la France de façon extrêmement présente, et autour des discours colonial était quand même extrêmement fascisant, la Libération a comme la rédemption totale. Tous les Français étaient bons, etc. Et personne n'est revenu sur les discours des années 20-30, qui étaient des discours épouvantables, épouvantables.
Et je crois que nous sommes dans l'ombre portée de la foi. Je crois vraiment que le trou symbolique, qu'on dit impensable, indicible, irreprésentable, hein, c'est le mythe de Didier Huberman par exemple, Godard et Bachmann sur ces questions-là, font qu'on ne pense pas. On ne pense pas ce qui s'est passé là et on ne pense pas quelque chose du droit de vivre, comme il était dit tout à l'heure, et qu'il y a quelque chose qui nous interdit. Et là, là-dessus, la guerre d'Algérie est arrivée là-dessus. Elle est venue là-dessus, et donc en balayant la guerre d'Algérie, à mon sens, on balayait aussi, mais parce que je ne sais pas comment on peut faire aujourd'hui, comment on peut border ce trou symbolique qui a été la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je m'y attelle, hein, mais c'est très très difficile. Je crois qu'il y a une ombre portée, là, et qui rejaillit sur la guerre d'Algérie, sur le colonialisme, etc. Parce que, et puis alors il y a un retour du génétiquement déterminé aujourd'hui qui nous renvoie tout à fait à cette problématique de la Deuxième Guerre mondiale avec les mêmes mots, les mêmes images, les centaines de corps jetés par la Méditerranée à Zarzis, en Tunisie par exemple. C'est hallucinant avec les fosses qui sont construites et les corps qui sont mis dedans. Enfin, il y a quelque chose là que nous n'arrivons pas à dire. Voilà.
C'est vrai que ce surajoute ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'évolution, mais là qui n'est pas française, qui est mondiale, de la génétique, de la marchandisation, du DSM-5 aussi, avec une systématisation des pathologies mentales. Maintenant, il y a 500, je ne sais plus combien, de façon à ce qu'il y ait des produits. Donc, qui n'est pas encore traduit en français, là, qui n'est pas traduit en français. Pas encore.
Ça fait 2 ans que c'est sorti en anglais quasiment.
Oui.
Il y a pas de cette question, je vais m'interroger dessus.
Mais je pense que il faut dissocier les choses. Je pense qu'effectivement, nous avons en France cette question. Alors, toi tu l'as liée à la Shoah, je pense qu'effectivement, il y a ça à voir, c'est aussi deux sujets qui ne sont pas complètement similaires, mais c'est une ombre portée. Voilà. Et je pense que, oui, tout à fait. Et ça, il faut qu'on le verbalise. C'est pour ça que nous, on milite ici à Regard pour qu'il y ait un musée de la colonisation, et non pas un musée de l'immigration. Et qu'il y ait un musée de la colonisation, non pas pour se flageller, mais pour qu'on voit ce qu'il s'est passé, pour qu'on le mette à jour, et qu'on ne découvre pas tout d'un coup, comme moi j'ai pu le faire, ce que c'était que le jardin d'acclimatation à l'occasion d'une exposition en 2012. C'est pas normal ça quand même, c'est pas normal qu'il faille attendre que Liliane Thuram mette tout son poids médiatique pour qu'il y ait une exposition. Ça devrait faire partie de, voilà, du travail de d'histoire normale. Et que n'est pas cette cloche.
Le labyrinthe du silence, ce film-là, est intéressant.
Voilà, parce que je pensais à ça.
Ah, voilà.
Oui, absolument. Absolument.
Oui. Bon. Et j'avais jamais pensé à ça. Voilà. Oui. Imaginez que les gens cachent, malgré eux.
Est-ce que. Il est midi et demi. On a réussi quand même à communiquer malgré.
Une idée pour le.